Le chagrin est si puissant qu'il me fait halluciner. Il me dit, mais pourquoi ? Parce que j'entends la flûte de Julia. J'entends sa flûte résonner, les notes, enfin, une note comme ça. Je reconnais celle de Julia. Et il me dit, fais-moi écouter. Donc je prends le téléphone fixe, je le suspends dans les airs, là. Et je remets l'écouteur à l'oreille. Et il me dit, non, Nina, tu n'hallucines pas. C'est bien un son de... Ok, et là, je prends peur et j'appelle la femme à qui appartient la maison, l'ami, qui finit par arriver. Et au moment où la porte s'ouvre, le son s'arrête.
Quand dans sa vie, on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment ? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va ?
J'ai l'impression que ça va bien. Ça va de mieux en mieux.
Ouais.
ça sert à ça le temps. Hein.
Ça sert à ça. Est-ce que tu peux me dire quelle était ta vie dans ta vingtaine ?
Ma vie dans ma vingtaine, j'avais déjà un enfant. Puisque j'ai été maman très jeune, ma première fille, Julia. Et donc, j'avais fini de mettre Julia au sein. Et puis, je quittais le père de ma fille. Voilà. Qui me disait, si tu pars, laisse-moi à moi, Julia.
Et ta vie pro, c'était quoi ?
Alors, il s'est passé que la première fois, j'avais donc 16 ans, j'ai rencontré un homme qui s'appelle David Christie, qui devient le père de ma fille, mais qui est à ce moment-là numéro 1 dans le monde entier, avec un tube. Et je me demandais bien, je vivais avec lui, et je me demandais bien à 16 ans, qu'est-ce que j'allais bien faire dans ma vie, quoi. Avec, oui, c'est la question qu'on se pose un peu quand même. Et donc, je me suis dit, je vais faire du théâtre. Il a dit que c'était une très bonne idée. Il m'a donné une liasse de billets. Et je suis partie au conservatoire avec la liasse. Et là, on m'a dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Ici, il faut apprendre un texte ou un poème.
Et à quel moment t'as assumé d'être une artiste et à quel moment tu as fait ton premier objet artistique?
Assez vite, il m'a entendu chanter dans la salle de bain et sous la douche. Et le studio était à la maison et il m'a demandé de venir. En peignoir, je me souviens, je suis allée et j'ai commencé à chanter. Et donc, on a fait un premier 45 tours. Et puis, mais très jeune, 16 ans, mais j'ai fait quoi ? FR3 régional, qu'il n'y a que ma grand-mère qui m'a vu. Donc, voilà, puis ça... Voilà, et puis après... non, ce qui a... Après, j'ai quitté David et le premier album que j'ai fait, les premières chansons que j'ai commencé à enregistrer, je me suis lancée dans l'écriture, mais ça n'a rien à voir avec David, même si, voilà.
Même si c'est lui qui t'a révélé peut-être ton désir.
Et carrément, et puis le fait de chanter dans un micro, tout d'un coup, et d'avoir l'intérêt, l'attention de quelqu'un et le désir.
T'as eu un immense succès ?
J'ai eu un succès très rapide, quand j'ai sorti le premier album. Mais disons que ça n'est pas arrivé subitement, puisqu'il y a eu ces premiers 45 tours, c'est toutes ces petites expériences vécues et non vécues. Et donc, voilà, premier extrait de mon premier album, Maman. Carton.
Monstrueux.
Carton, vraiment. Et très vite, avec une... Voilà, ça roule, quoi. Je me pose même pas la question, je me rends même pas compte que c'est miraculeux. Et je vis les choses, voilà, je vis.
T'as aimé cette période ?
J'ai adoré, bien sûr, c'est fort. Enfin, ouais, je l'ai adoré, je m'en souviens, je commence à m'en souvenir.
Tu dis je commence à m'en souvenir parce que
parce que à 27 ans, tu vis une déflagration monstrueuse. Ta fille, elle vit avec David, elle vit avec toi, comment vous vous êtes organisée ?
Elle vit avec David, puisque quand il m'a posé la question, de me dire « Laisse-moi, si tu me quittes, laisse-moi au moins Julia », j'ai décidé de partir. Donc on était dans une région au bord de la mer, de l'océan Atlantique, Osgore, Cap-Breton, plus exactement, pas loin de Biarritz, et donc la maison était là, il y avait une employée de maison constamment,
oui.
Et je me suis dit, je vais pas lui faire mener ma vie de saltimbanque sous prétexte que je suis sa maman,
oui.
Et je viendrai, la quantité ne fait pas la qualité, etc. Voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu sur le moment.
C'était voilà. Pour son bien.
C'était pour son bien, mais c'était pas pour son bien. Un petit enfant, il a besoin de sa maman au quotidien. Voilà. Et donc je suis partie et Julia vivait avec David, qui avait le studio à la maison. Donc j'ai aussi encore enregistré. Je venais, j'étais chez moi.
Et il s'est passé un drame. Est-ce que tu te souviens comment tu l'as appris ?
C'est fou parce que on a l'impression qu'on peut plus pleurer. Souvent, on pleure plus. Et parce qu'on a tout intégré, Mais il y a parfois. Surtout sur ce point-là, précisément, parce que je parle souvent de guérison, mais à la fois, il y a des moments sur lesquels je ne peux plus revenir, je ne peux pas. C'est trop violent.
Tu veux qu'on n'en parle pas ?
Mais si, c'est... Mais c'est trop violent, mais... Pourquoi pas l'en parler ? C'est l'émotion est puissante. J'étais en répétition avec mes musiciens et je préparais une émission pour Jean-Louis Foulquet qui était une heure et demie d'émission musicale et qui s'appelait La Fête à Nina. Et voilà. Et donc je l'ai appris en écoutant mon répondeur, en écoutant la voix de son père qui me disait que Julia, elle était dans son bain, qu'elle dormait, qu'elle ne se réveillait pas. Et puis les messages ont succédé. Et j'étais sur une route, je me souviens, la route qui était devant le studio, le bitume, quoi. Et j'entendais les messages au fur et à mesure qui quand il me disait qu'il avait beau essayer de la réveiller, et ne se réveillait pas. Et au fur et à mesure, le message annonce que Julia ne s'est pas réveillée, qu'elle s'est noyée. Donc, je perds connaissance. Les musiciens viennent me chercher, viennent me... me secourir. Et puis on part tous en voiture jusqu'à la maison en question. Et moi, je crois que quand elle va me voir, elle va se lever, quoi. Je dis non, c'est une blague. Voilà. Quand je l'ai vue, d'abord on voulait pas me laisser rentrer, mais j'ai fini par. On voulait pas me laisser monter parce qu'il faut attendre tout un tas de trucs, le médecin.
Il y avait pas encore de médecin, pas de pompier, il y avait rien quand t'es arrivée.
Je sais plus trop ça, mais je sais que il y a que des gens qui m'ont empêché. Il fallait que j'attende le médecin léger, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis allongée près d'elle. Quand je l'ai vue, j'ai su qu'elle était partie, c'est vrai. Et après, je me suis allongée près d'elle. Un petit moment. Et elle est partie. Dans un camion de pompiers. Et après, on m'a fait une piqûre et puis je me suis endormie. Et le père de ma deuxième fille est venu dormir auprès de moi.
C'était ton amoureux de l'époque ?
C'était pas mon amour. Mais c'était le père de Paloma, ma seconde fille. Et voilà, il y a quelques personnes qui sont des êtres proches, ouais. qui sont venus jusque dans la maison. Et voilà. Et puis après, il se passe un truc phénoménal, c'est qu'on a une force absolument dingue pendant quelques jours d'après qui suivent. On est en train de réconforter les gens, les amis qui vous approchent. Ce truc est tellement fort, une force.
Ça t'a pas énervé parce que moi, ça me rendait dingue, les gens attendaient de moi que je les console.
Oui, il y a un petit truc comme ça, effectivement. Effectivement.
Que je les rassure.
Ouais, ouais, mais c'est tellement, ils sont tellement dépourvus de tout moyen, tu vois, que voilà. En tout cas, moi, j'ai eu ce réflexe, et enfin, en tout cas, il y a cette force. Je me dis toujours qu'on est super bien constitué, et que normalement, quand on perd nos êtres chers, on est capable aussi de s'en occuper. Il va falloir une sacrée force pour s'en occuper, les accompagner, les enterrer, les je ne sais quoi,
les papiers administratifs,
toutes ces choses. Et la force est là pendant quelques jours, et après, voilà. Et après.
Il y a une autopsie ?
Il y a une autopsie. Un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un procureur. On disait le procureur de la République. Et puis, j'étais à Biarritz. Enfin, j'étais à Cap-Breton parce que nous avons fait une cérémonie pour Julia à Cap-Breton. Pour disperser ses cendres avec les couronnes de fleurs dans l'océan Atlantique. Et moi, je voulais un endroit très spacieux pour penser à elle. Et je voulais avoir la sensation, quand je me baigne, chaque fois que je me baigne dans les immensités de l'eau, je voulais avoir l'impression d'être me connecter avec elle, absolument. Et donc, ça change la donne, quand même, de ne pas se recueillir dans cette petite chose fermée où non, là ça devient là c'est les chaque vague, c'est un câlin, c'est une caresse.
C'est merveilleux ce que tu racontes. C'est horrible et c'est merveilleux à la fois, je sais pas comment c'est possible.
C'est terrible et c'est merveilleux, mais puisque ça existe il faut en faire quelque chose de merveilleux parce que nos enfants quand ils viennent nous voir sur cette terre, nous font un cadeau immense. Quand ils en partent, c'est à nous d'en faire un, leur faire un cadeau. Il y a quelque chose à... J'ai ce sentiment, je ne l'ai pas toujours eu, ça a progressé au fur et à mesure. Quand j'étais au Maroc ou en Tunisie et qu'ils me disaient, les gens, qu'ils apprenaient la nouvelle, me disaient, c'est Dieu qui veut ça, Dieu qui... J'étais là, c'est... Comment Dieu, quoi Dieu qui veut ça? Mais c'est, enfin, mais je le disais rien du tout, je le pensais fort, en disant, mais comment? J'étais révoltée à l'intérieur, mais aujourd'hui, ça arrive dans la vie, il y a une histoire, chacun a son histoire avec des... J'ai la sensation, j'avais pas la sensation des vies passées, des vies futures, je vivais au jour le jour, j'étais son foignée-loi, j'étais, mais, au fur et à mesure, d'abord les signes de ma fille.
Est-ce que tu veux raconter, parce que tu me l'as déjà raconté, ce qui s'est passé après la cérémonie de dispersion de ses cendres dans l'océan?
Oui. Ben, j'étais dans une maison qu'on m'avait mise à disposition pour me poser. Et j'étais seule dans cette maison. Et le jour de la cérémonie, j'appelle un ami, Jean Boucher, qui a fait deux de mes clips, qui est un très proche, qui était venu à la cérémonie, qui était reparti en avion, à qui je téléphonais depuis un petit fauteuil, qui appartenait d'ailleurs à ma fille. Et je lui disais, à un moment donné de la conversation, Jean, le chagrin est si puissant qu'il me fait halluciner. Il me dit, mais pourquoi? Parce que j'entends la flûte de Julia. J'entends sa flûte résonner, les notes, enfin, une note comme ça. Je reconnais celle de Julia. Et il me dit, fais-moi écouter. Donc je prends, c'était le téléphone fixe. Je prends le téléphone fixe, je le suspends dans les airs, là. Et je reprends, je remets l'écouteur à l'oreille. Et il me dit, non, Nina, tu n'hallucines pas. C'est bien un son de... Ok, et là, je prends peur et j'appelle la femme à qui appartient la maison, l'ami, qui finit par arriver, et au moment où la porte s'ouvre, le son s'arrête. Et donc je lui dis tout de suite, immédiatement, elle me dit, mais tu as l'air d'être terrorisée, ma pauvre chérie. Je lui dis, écoute, je veux juste savoir si chez toi il y a une alarme qui est censée sonner, un truc se déclencher, parce que je lui dis pas parce que je lui dis rien. Je lui demande juste s'il y a rien qui peut se déclencher. Et là, elle me dit, tout est brocante et antiquité, ma chérie. Ok, est-ce que tu peux faire le tour de la maison avec moi? On peut regarder chaque pièce. Et là, on ouvre les portes, une à une. Je regarde, effectivement, dans chaque pièce, rien n'est susceptible de sonner. Jusqu'à ouvrir la porte de ma chambre et y découvrir la flûte posée sur mon lit, la flûte de ma fille, la flûte d'école. Et là, je la regarde, cette flûte, et je sais que le son vient d'ici, je le sais. Et je demande à Géraldine de me laisser seule. Et là, pour la première fois, j'ai cette flûte dans les mains et je demande à voix haute à Julia, je lui dis, Julia, si tu viens me voir encore, ne me fais pas peur. Et là, je me dis, je suis folle, ça y est. Ça y est, c'est comme ça, en fait, la folie, que ça commence. Et voilà, et elle est revenue voir.
C'est ce que j'allais te demander.
Une année après, quelques mois après. J'étais avec mon amie, princesse Erika, et quand je raccroche de cette conversation vers 1h du matin, je me dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et au moment où je pose cette question à voix haute, je regarde le portrait de ma fille qui est au-dessus de mon bureau, mais chaque fois que je regarde ce portrait, c'est insupportable, je me tords de douleur et je pleure et je prends ma tête dans ma main, je dis que non, ça n'est pas possible. Et cette fois-là, je regarde, au moment où je pose la question, le visage, enfin, voilà, le portrait de ma fille. Et m'arrive une chose incroyable que je n'ai jamais connue dans la vraie vie, une sérénité absolue, totale. Le corps, tout est... Ah, le corps physique est empreinte d'un bien-être. Et à ce moment-là, au moment où je suis donc disposée, la petite boîte à musique qui appartient à Julia, où il y a un clown dedans, et lorsque vous ouvrez le tiroir... Et vous tournez la petite mallette. Normalement, il faut tourner.
Oui.
Et ensuite, on ouvre le tiroir et le petit clown se met à danser. Mais là, j'ai rien fait. C'est-à-dire, je me tourne vers cette boîte à musique parce qu'elle se déclenche toute seule.
J'ai des frissons des pieds à la tête.
Ouais. Tout le temps du cycle, je regarde ce clown danser. J'ai vu des larmes dont je me souviens comme des... Quand on voit... On a tous un souvenir d'un flocon qui passe dans notre œil. Là, je me rappelle même du diamètre de ma larme qui était très épaisse parce que je voyais tout à travers cette larme. J'ai un souvenir émerveillé comme ça où j'étais très heureuse et je comprenais que c'était elle qui arrivait là et qui... Comme un message. Oui, elle peut pas arriver mieux qu'en musique.
Et puis elle te disait, ça va bien se passer.
Mais ouais, ça va aller...
Tu fais quoi les semaines, les mois, les années après et surtout, est-ce que tu t'en souviens de ce que tu fais après?
Alors, j'œuvre tout de même les années après. Je fais un troisième album assez rapidement. Mais aussi assez rapidement, mon album sort et assez rapidement, je suis enceinte d'un homme avec lequel, qui est mon amoureux. Et quand même, je commence à me poser des questions et je me souviens que le jour où j'ai fait le test, je me suis dit, parce que le disque sortait, et en même temps, j'avais ce désir hein, d'enfant, je l'avais, nous l'avions en fait. Et donc, je me souviens avoir senti quelque chose là, et de nouveau, dans le corps. Donc, j'ai fait ce test et je me suis dit, si je ne suis pas enceinte, je le quitte. C'est fou, hein. Et parce que, voilà, je sentais quelque chose de pas bon pour moi. Mais bon, j'étais enceinte. Et voilà, ma troisième fille est née, Odyssée. Et donc voilà, l'album, il est sorti, mais très rapidement, j'ai fait de la scène, pendant un mois, c'était magnifique, merveilleux. Et puis voilà, Odyssée est arrivée, la maison disque s'est dit, on va pas mettre plus d'argent sur une artiste qui va se rendre indisponible dans quelques mois. Ils vous donnent de l'argent pour vous apaiser, pour vous remercier. Et puis voilà, quoi, et puis moi, voilà, j'avais un tel désir. Et en plus, mais comme le père de ma fille, Odyssée, il est né le 2 février. Et le 2 février, c'est le jour de la mort de ma fille. Donc, il y a quelque chose de très troublant.
Oui.
On ne peut pas s'empêcher d'y penser, quand même.
Ça s'est mal fini avec lui?
Ouais, ça s'est pas bien fini, mais... enfin, si, ça s'est bien fini, puisque Odyssée est merveilleuse.
Comment t'as abordé l'éducation au quotidien de tes filles? Est-ce que t'as pas été terrorisée du moindre truc? Paralysée? Peur des voitures qui traversent? Peur des chiens dans la rue, enfin, est-ce que tu as réussi à leur offrir un peu de liberté ou est-ce que ta peur t'a paralysé?
D'abord, j'ai une vie très particulière avec mes filles, mais c'est vrai qu'il y a cette... c'est vrai. Mais bon, j'ai dû très vite... parce que bon, Paloma, je n'ai pas... Je veux dire, c'est... On est pleine de chagrin. Je vivais pas avec son père. C'était là, le chaos total, quoi. Donc, non, mais les histoires. comment dire? Attends, comment répondre à une telle chose?
Qu'est-ce qu'elles en diraient, elles, si on leur pose la question?
Non, pitié, ne pose pas cette question, je t'en supplie. Hein. écoute, je vais te dire un truc. Pour mon anniversaire, cette année, Odyssée m'a envoyé un message. Et je vais donc lire ce message d'Odyssée. Voilà ce qu'elle en dit, Odyssée, aujourd'hui. Elle dit... Maman, ma reine, mon soleil et ma tempête, mon inspiration est l'inverse. Ma guerrière, mon rempart, ma force, joyeux anniversaire. Un si bel âge ça se fête, surtout quand on est en si belle forme que toi, ma sportive de haut niveau. Merci d'être celle que tu es, aussi créative, inventive, drôle. Merci d'avoir ta propre réalité. Merci d'être aussi curieuse, aventureuse. Merci de tous les trésors de patience que tu déploies pour que je me construise bien. Merci de tout ce que tu as affronté dans l'ombre pour me protéger. Merci de tout ce que je vois. Et tout ce dont j'ai une petite émotion. En fait, cette émotion, elle arrive là. Mais pourtant, je l'ai lu et relu sans l'avoir. Mais c'est-à-dire, je le vis exactement un peu comme quand je l'ai reçu. Mais là, donc, j'ai eu un petit soubresaut, quoi, qui est remonté à la surface. Merci de tous les trésors de patience que tu déploies pour que je me construise bien. Merci de tout ce que tu as affronté dans l'ombre pour me protéger. Merci de tout ce que je vois et tout ce dont je ne me doute même pas. Merci pour ce que tu me montres et merci pour la partie cachée de l'iceberg que tu dissimules si bien pour que je garde toujours l'esprit calme. Merci d'être une maman aussi géniale, atypique. Et c'est tout ça que j'aime chez toi. Tout ça, tout ce que je voulais que tu changes quand j'étais petite, c'est tout ce que j'admire aujourd'hui, même si je ne te le montre pas assez. Je suis fière de t'avoir et si j'avais pu choisir, j'aurais fait le même choix. Si on en croit ta théorie, on choisit ses parents. J'espère que cette année t'offrira toutes les possibilités, t'ouvrira toutes les portes de la créativité. de l'amour, des joies, des fêtes. C'est un mélange de rire et de larmes.
C'est plus rire.
Ouais, c'est plus rire. Oh, désolée de verser tant de larmes. Franchement, je m'y attendais pas. Hein. Franchement, bah voilà, c'est comme ça.
À ton avis, pardon si la question est crue, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es pas foutu en l'air? Qu'est-ce qui fait que t'as choisi la vie?
Eh bien, parce que je dirais que je ne pouvais pas faire ça à ma mère.
Donc t'es resté pour prendre soin des autres, ou pour pas leur infliger une douleur?
Bah, je veux dire, je pouvais pas infliger la douleur que je ressens sans ma fille à ma mère qui a non. Papa, faut que ça s'arrête.
Ça fait combien de temps maintenant?
Franchement, je compte plus les années, mais ça fait un petit bout quand même,
ouais.
Plus de 15 ans en tout cas. Mais bon, ce qui m'a en tout cas sauvée, c'est d'abord les signes de Julia que j'ai eus, très précisément, deux reprises, trois, et puis tout le temps en fait finalement. Et puis j'ai des enfants aussi, je me suis dit ça, j'ai des enfants, et puis surtout, voilà, et... Pour ne pas aussi faire porter le chagrin, j'ai fait un travail thérapeutique important.
Ouais.
Et du coup, pour cautériser cette blessure,
ouais,
qui se trouve, enfin, voilà, c'est quand même un trou béant quand même, hein, dans le corps. Hein. Et puis j'ai œuvré, franchement, de manière thérapeutique, mais aussi, je veux dire, j'étais devenue très maigre, je sentais plus mon corps, il était plus vivant, quoi. J'étais comme une carcasse, quoi.
Ouais.
Et donc, de ça, je me suis, puis je regardais plus le ciel, ça m'ennuyait beaucoup, quand même. Je me suis rendu compte de cette posture, et en passant devant je crois que c'était le Forum des Halles, j'ai vu un cours de karaté. Je me suis dit, tiens, je vais faire du karaté.
En passant devant comme ça.
Ouais. Et comme ça, je vais pouvoir. Comme ça, personne ne sait rien de ma vie. Je vais combattre. Je me suis redressée. Je me suis devenue résistante, quoi. J'ai appris.
On n'a pas parlé du détail du départ de ta fille. Mais on va en parler parce que je vais te poser une question. Est-ce que tu as pardonné à ton ex, à son papa? Est-ce que le pardon, ça a été un truc qui t'a aidé à aller mieux ou...
Pourquoi je dois le pardonner?
Tu dois ou tu dois pas, mais
pourquoi?
Parce qu'elle était sous sa surveillance et que tu lui avais délégué la protection de votre petite.
Ah, c'est bien plus terrible que ça, mais je me demande si je peux. Peut-être que je pourrais le mettre dans un livre, ça, et encore, je sais même pas, parce que c'est tellement terrible. Parce que j'écris un livre, on m'a poser la question de savoir si je voulais. Mais c'est pas uniquement, c'est ma vie, c'est mon être, voilà, oui. C'est quelqu'un qui aime mes chansons, qui a aimé un album, voilà. Bref, et c'est vrai, je rassemble, et d'abord pour un spectacle que j'ai envie de faire, que j'ai envie de raconter, avec des histoires de toutes parts, et qui vont déclencher des chansons, des oui, émotions, donc des chansons, mais il y a aussi ce livre, quelque part, c'est un autre chantier, quoi. Et donc, c'est vrai, je rassemble les souvenirs. Non, c'est vrai que pendant ce confinement, par exemple, j'ai comme tout s'est arrêté net et que je me suis retrouvée seule à vivre seule et comme ça, tout s'est arrêté net, le mot, tu n'avais plus de rendez-vous, plus rien, plus de et ben du coup j'ai eu comme si je remontais à la surface et que je reprenais mon inspire.
Ouais.
Donc mais je m'étais pas rendu compte que j'avais coulé. Je m'étais pas rendu compte que j'avais coulé, mais il s'en passe des choses quand on coule, hein.
Mmh.
Il s'en passe.
Bien sûr.
C'est le temps de la descente. Mais vous avez un réflexe d'autoprotection. Vous vivez sans vous souvenir. C'est comme pour ne pas retenir. C'est un réflexe de protection.
Ouais. C'est volontaire que t'aies pas répondu à ma question. Ça veut dire que tu veux pas que je la pose?
C'est la question
du pardon au papa de Julia.
Comment dire, j'ai une vision maintenant plus large, parce que si je rentre dans les détails, c'est assez triste et sûrement sordide, parce que David était sur le point de... Il voulait mettre un terme à sa vie, et il a un jour dit ouvertement à table avec ma mère et moi, en disant, pendant que Julia s'amusait avec sa cousine Charlotte, dans au fond de l'appartement, et il disait, moi, je mange pour manger, je dors pour dormir, mais j'ai plus envie, je veux rien, j'ai plus envie de rien, ce monde est pourri. Mais de toute façon, je ne laisserai pas Julia dans ce monde pourri. Et quand ma mère s'est levée, a pris les assiettes, on est allé dans la cuisine, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, quand les gens veulent vraiment mourir, ils ne le disent pas. Et deux mois après, Julia est morte, noyée, dans une baignoire à l'âge de 12 ans. Ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Il y a une enquête et David prend des somnifères. Et elle est des doses de somnifères très fortes. Mais la veille, parce que David venait de... Voilà, à la suite de ça, à la suite de cette confidence, j'étais très furieuse après lui en lui disant « Écoute, David, si tu es là élevé jusqu'à maintenant, je vais m'en occuper. Si tu ne tiens... Les enfants ne nous appartiennent pas. Ils viennent de nous, mais ils ne nous appartiennent pas. Donc, ce n'est pas à toi de décider du sort de Julia. » Donc voilà, et ensuite le lendemain, j'étais furieuse en lui disant qu'il avait tout ce qu'il voulait. On avait une fille en bonne santé, jolie comme un cœur, tout l'argent, il était à l'aise, il faisait de la musique, enfin voilà, tout, tu vois, donc il aille voir quelqu'un, bref. Et donc, attends, où est-ce que j'en étais vraiment?
Qu'il y a une enquête.
Voilà, c'est ça, et donc... En fait, elle était malade. Moi, j'enregistrais l'émission de Jean-Louis Foulquet. Pour Jean-Louis Foulquet, elle était malade. Et donc, elle avait une otite. Et la nuit, depuis 3 jours, la maison a été achetée. Et finalement, il m'avait dit, écoute, puisque j'étais furieuse de cette maison, il m'avait dit, je te laisse la maison, tu la vends et tu achètes ce que tu veux. Mais c'était là le 3e jour. Et quand je suis rentrée à la maison, je dormais même les 3 dernières nuits. J'ai eu la chance de dormir avec elle. Et j'ai appelé le médecin le matin pour que le médecin vienne. Son père était là.
Oui.
Le médecin est venu et elle lui a prescrit des médicaments que David est allé chercher. Mais bien sûr, c'est son père qui lui donnait les médicaments. Et voilà.
Tu penses que c'était pas une erreur?
Je le pense.
Je suis de l'autre côté de la table et je voudrais prendre dans mes bras.
Je le pense et j'avais beaucoup de mal à dire ces choses-là et à les penser même pendant de nombreuses années. D'ailleurs, j'ai tout à fait plus jamais repensé à la cause. C'était pas le propos, c'est le karma de David. Voilà. Un jour, ma fille Paloma m'a dit, quand sa sœur est partie, enfin très peu de temps après, elle avait 7 ans, elle m'a dit... Tu sais, maman, quand j'étais très vieille, il y a très longtemps, je suis morte. Et quand je suis revenue sur Terre, il a fallu que je choisisse une mère. Alors, t'es contente que je t'ai choisie comme mère? J'ai ressenti là, ok, j'ai compris que oui, c'était une vérité qui lui échappait, quoi.
Excuse-moi, je suis un peu troublée de ce que tu m'as dit. Les gens ne le savent pas, mais il s'est suicidé quelques semaines après.
Ouais, c'est ça, il s'est suicidé.
Donc, je retire ma question, je m'en fous de savoir si tu lui as pardonné.
Pardonner. Qu'est-ce que j'ai à pardonner? J'accueille la vie, on me donne des missions, des choses à apprendre, des obstacles. J'accueille. Tout a une raison d'être. Le plus difficile, on est en train de sculpter. Moi, j'avais lu une phrase comme ça de Khalil Gibran dans Le Prophète qui disait. Plus profondément le chagrin creusera ton être, plus il pourra contenir de joie. Cette phrase dans un des textes qui constitue ce livret, ce livre de Khalil Gibran, eh bien, ça concerne la connaissance de soi. Non, c'est la joie et la tristesse. La joie et la tristesse. Donc, plus profondément le chagrin creusera ton être, plus il pourra contenir de joie. Dans cette phrase, j'ai compris que je sculptais avec tout ce qui arrive. C'est quoi le prochain? La prochaine? C'est quoi les prochaines choses? Il faut se disposer, puisque ça arrive. Il y a quelque chose à comprendre là.
Tu disais que tu avais fait un album après ça. Comment t'as géré, parce que toute la presse évidemment s'intéresse à ce que tu fais, comment t'as géré le sujet? Est-ce que t'as voulu le mettre à l'écart en disant je suis pas qu'une maman en deuil, ou est-ce que t'as voulu en parler? Enfin, comment t'as cet objet, cette douleur?
C'était très difficile, c'était un dilemme, parce que tu fais de la musique, des chansons, et franchement je suis constituée de Julia, de toute mon histoire, mais je veux dire les larmes sont venues, l'émotion très forte ici d'en parler, c'est vrai, mais je vis
t'es pas que ça,
mais tellement pas. Donc voilà, je fais les choses avec plus de conscience, plus de cœur, plus de voilà. Je me répare, c'est vrai. Il y a une réparation, il y a une phrase. C'est un tremblement. Donc
faire de la musique ou
mais t'es... ça répare. C'est, je me dis heureusement j'ai ça. Comment font les autres? Voilà. Et en même temps. Franchement, il y a la musique et en même temps la nourrir. Et la musique, il faut la nourrir. Et il faut vivre pour la nourrir. Donc, je suis à tous les postes.
Donc, il faut vivre.
Il faut vivre. On est tellement là pour ça, quoi. On est tellement là. Et pour vivre, au moment où on arrive jusqu'au moment où on en part. Et ce n'est pas à nous de décider, c'est de la surpuissance.
Est-ce que tu as déjà pensé peut-être à écrire ou parler pour les gens qui ont traversé le même drame, ou un drame, la perte d'un enfant, pour leur dire, des années après, on peut survivre, on peut rigoler, on peut jouir, on peut manger au resto, on peut être heureux.
C'est-à-dire, voilà, pardon, je t'interromps.
Non, est-ce que tu as envie de... d'une façon ou d'une autre, de partager avec des gens en leur disant, c'est pas tout de suite, chacun va trouver son chemin, mais c'est possible.
Voilà, ça je veux bien... je me souviens, alors je vais commencer par dire que je me rendais souvent à l'église Saint-Eustache à Paris, où a eu lieu la cérémonie pour Julia, et un jour, je suis rentrée dans une librairie en face, et le premier livre sur lequel je suis tombée, c'est le livre... d'un bouddhiste.
Le Dalai Lama?
Exactement, le Dalai Lama. Je tombe pile sur Dalai Lama, j'ouvre la page et je vous assure, je vous assure que la première page que j'ouvre, c'est « Mais alors que faire lorsque l'on perd un enfant ?» Puisqu'il parlait du chagrin, en disant que c'est nombriliste, que le chagrin est souvent nombriliste qu'à un moment. Et il disait, mais bien sûr, le chagrin a lieu, il est puissant, il est fort. Mais on ne peut pas passer son temps dans le chagrin, parce que ça devient de l'égocentrisme.
Oh, c'est dur ça.
Oui, mais c'était intéressant parce que, il faut se servir de ça pour ouvrir, quoi. Il faut... ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça prend du temps. C'est un cheminement pour chacun, selon son histoire, selon de comment on est constitué. Mais il y a plein, sur la Terre, de voies et de pistes pour se réparer, et d'outils pour se réparer. Et nous devons rester attentifs à ça et chercher ça. Pour bien sûr...
Tu veux dire qu'il faut être proactif, il ne faut pas se laisser dériver et attendre...
Bien sûr, et puis il y a ceux qui nous aiment, on ne peut pas leur infliger ça, il faut ne pas contaminer, on est contagieux quand on a du chagrin, on se sent très contagieux quand on a du chagrin.
Quand j'ai perdu mon fils, il y a un monsieur qui vient de mourir, qui s'appelle Yves de Prost, qui était un professeur de médecine en pédiatrie, qui m'a invité à déjeuner, ça faisait quelques semaines seulement, et il m'a dit j'ai perdu un fils le jour de ses 3 ans. Je lui ai pas demandé plus de détails parce que j'étais déjà complètement à côté de mes pompes et que j'étais un peu pétrifiée par cette annonce. Et je lui ai dit, mais t'y penses encore? Donc ça devait être 40 ou 45 ans avant, c'était un vieux monsieur. Il m'a dit, mais je lui ai dit, t'y penses encore par exemple tous les jours? Et il m'a dit, tous les jours non, plutôt chaque minute de chaque heure de chaque journée. Et très bizarrement, en fait, ça m'a soulagée parce que je me suis dit, j'ai le droit d'y penser, j'ai le droit d'avoir du chagrin. Il faut pas attendre que
absolument
le chagrin s'arrête.
Très intéressant. Ce que tu dis, c'est vrai. Parce qu'on veut éloigner ce chagrin, on veut essayer de survivre, quoi. C'est l'instinct de survie qui se manifeste. Mais si on l'accepte en disant, et c'est vrai, on est fait de, c'est vrai, franchement, on honore, il faut honorer cette vie.
Est-ce que t'es heureuse?
Oui. J'ai des moments de grand bonheur. Vraiment. Et vraiment. Des moments de grand bonheur parce que je présente des musiques à des poésies, parce que c'est le printemps, parce que voilà, mon cœur, ma bouche embrasse et toute la vie m'intéresse au plus haut point. Elle me passionne, le monde est très très monde de brut. voilà, mais franchement, il y a de quoi faire sur cette terre.
Oh mon ange, mets des ailes à tes phalanges, ça ne change rien. Oh mon ange, puisque rien ne se perd, puisque tout